J'aimerais parler de ce matin d'être un cœur assoiffé, d'être des chasseurs de Dieu.
Amen.
Alléluia! On a besoin de retrouver notre vie spirituelle, qu'elle soit en santé. Et pour nous, de notre part, on fait notre possible, on ne réussit pas toujours, hein? On est humain, mais Dieu est quand même divin. Dans l'impossibilité, Dieu fait le possible. Alléluia! Il s'agit de mettre l'effort et le reste, ça peut suivre. Donc, on a pris beaucoup de temps depuis 2 semaines dans le jeûne, dans la prière. On cherche vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans toutes choses? Il y a plein de choses devant nous. Et ce matin, je voudrais vraiment regarder un cœur assoiffé de la présence de Dieu. Donc, si vous avez vos Bibles, avant de commencer aussi, je suis en train d'oublier quelque chose. Ce soir, on va commencer l'introduction du livre de l'Apocalypse. On va commencer le chapitre 1. On va faire du verset 1 au verset 6. Si j'ai le temps d'en rendre au verset 6, il y a tellement de matériel, il y a tellement d'affaires dans ça. Fait que emportez vos crayons, emportez des papiers, emportez-vous peut-être une clé USB pour réécouter à la maison, parce que je vous le dis, il y a du matériel, il y a beaucoup de choses dans ça. Donc, on parle le premier chapitre que je veux parler, je ne parlerai pas de l'Iran, je ne parlerai pas de la guerre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi le but de l'Apocalypse? Pourquoi que Dieu le Père a donné la révélation à Jésus pour son retour? Donc, on va regarder toutes ces choses-là, mais soyez pas déçus parce que je ne parlerai pas de la guerre de l'Iran, je ne parlerai pas d'Israël, je ne parlerai rien de ça. Je fais la fondation du livre de l'Apocalypse. Tout le monde dit « Amen ». Donc, soyez pas déçus. « Ah, il n'a pas parlé de ça. Ah, il n'a pas... » Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est mettre la fondation pourquoi le livre a été écrit. Amen. Gloire à Dieu. Fait que tout le monde se comprend avec ça. Fait que on se fera pas tirer des roches. Fait que on va être content comme ça. OK. Donc, le psaume 63, verset 1 au verset 5, qui nous dit « Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire auprès de toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans la sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. » Seigneur, on veut te dire merci ce matin pour la louange, l'adoration. Merci, Seigneur, pour les musiciens, pour les chants, Seigneur. Père, merci tout simplement, Seigneur, parce que tu vis, tu es vivant et que tu vis au milieu de ton peuple. Seigneur, c'est quelle bonne nouvelle que nous avons, tu es vivant. Seigneur, merci également pour le message. Seigneur, que ce message, Seigneur, puisse tomber dans une bonne terre. Seigneur, une terre où tu viens toi-même l'arroser. Seigneur, c'est toi qui fais croître. Seigneur, je te prie ce matin que ce soit bon, encourageant, relevant, même redressant, s'il faut être redressé à certains endroits. Mais Père, je te remercie pour ta parole qui est oui et amen. Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et amen. Vous savez, pour mieux, je dirais, saisir le psaume, pour mieux comprendre ce verset ou ce chapitre, je dirais, tout part de l'adultère que David a commis avec Bathsheba. Vous savez, il y a eu beaucoup de conséquences face au péché de David. Et une des conséquences, nous savons qu'il a perdu le bébé qu'il a eu avec Bathsheba face à l'adultère. Et aussi, il y a une autre conséquence qui est directement liée avec le texte qu'on vient de lire. C'est un des fils de David, Amon, qui a fait un acte d'inceste avec sa demi-sœur qui a violé Tamar, c'est-à-dire. Amon et Tamar, c'est des enfants de David. Et suite à cela, Tamar, une fois qu'il a été violé par son frère, son demi-frère, va aller sur son frère Absalom. Absalom, qui est le troisième fils, tenez ça, là, c'est le troisième fils de David, c'est le fils préféré de David. Et suite à ce viol, maintenant, sa demi-sœur va aller vers son frère. Elle est honteuse, elle est déshonorée, elle a tout perdu. Donc, on va se réfugier sur son frère Absalom. Et Absalom a pris en haine son frère Amon. Et pendant 2 ans, ils ne sont jamais rencontrés, jamais parlé. Mais pendant ce temps-là, Amon a fait quelque chose de grave et Absalom n'a pas pris qu'est-ce que son frère y a fait. La haine a grandi, les choses ont été mal, le cœur d'Absalom, il est mauvais face à son frère. Et cette haine a conduit Absalom à tuer son frère Amon. Donc, le prophète Nathan a donné une parole face à cela. Vous savez, le roi David, après avoir couché avec Bathsheba, si on lit 2 Samuel 12, verset 10, ça nous dit « Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Héri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. » Donc, c'est une parole, une prophétie qui s'accomplit vraiment dans le foyer de David. La prophétie, elle est réelle. Absalom tue son demi-frère Amon. Et donc, après, Absalom va s'enfuir chez ses grands-parents en Syrie. Et David, au lieu d'exécuter son fils, Absalom, son fils préféré, donc, il le laisse aller, je pourrais dire. Maintenant, David, il est dans le deuil. Et avec son fils Amon, maintenant Absalom, les années passent, Absalom, maintenant lui manque, c'est son fils préféré. Mais David ne veut pas violer en réalité la loi de Dieu, parce que s'il revenait, c'était une mise à mort. Donc, pour lui, il veut que son fils revienne. Donc, de la seule façon, il a détourné la loi d'une façon très... Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, là, mais David va retrouver son fils. Mais la seule condition, qu'il n'avait pas le droit d'aller rejoindre son père immédiatement. 2 ans ont passé, je vous donne le récit historique, vous allez voir, c'est très intéressant par la suite, il y a eu une réconciliation. Maintenant, grâce à des événements qui sont arrivés, Absalom a commencé à s'infiltrer dans le groupe des amis de David. Et les gens, quand ils allaient voir le roi David, Absalom prenait ces gens-là, donnait des conseils. Il a commencé à se révolter comme son frère, à parler mal comme son frère. Donc, il a rencontré toutes sortes de mensonges face à son père. Et au bout de 4 ans, il a réussi à avoir des gens autour de lui, et y compris des amis du roi David. Et en plus, Absalom a même persécuté le bras droit de David pour qu'il s'en vienne sur son côté. Et David, c'est l'homme, cette personne s'appelle Achitophel. Achitophel, c'est le bras droit de David. Et Absalom a monté Achitophel contre David. Et maintenant, cet homme, Absalom, va trahir son père. Et David a découvert qu'est-ce qui se passe. Lisons avant, je vais rentrer après ça dans mon texte. 2 Samuel 15, verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Il dit, « Hâtez-vous de partir, sinon il ne te tarderait pas à nous atteindre et il précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Donc, pris par ça, il a découvert le jackpot qui était trahi par son fils. Donc, David va fuir devant son fils pour préserver la ville, pour la destruction de la ville, pour se réorganiser. Et là, on va lire, lorsqu'il était dans un désert, il s'est fui. David se retrouve maintenant dans le désert. Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire auprès de toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Maintenant, David est dans le désert. Donc, il est dans une terre aride, dans une terre desséchée, une terre sans eau. La première chose que David va dire, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il vient de vivre une crise, il vient de se faire trahir, il vient de passer un temps dur, il vit sûrement avec de la pression, avec du stress, mais il dit, « Ô Dieu, je te cherche. » Alléluia. La meilleure façon, quand nous sommes dans les troubles, c'est de dire, « Ô Dieu, je te cherche. » David cherche le secours de l'Éternel. David, en réalité, je pourrais dire, demande la grâce d'être secouru. Il recherche son aide, il recherche son secours, même s'il est dans un désert. Wow! On ne peut pas, David ne peut pas avoir une âme, son âme sèche, même s'il est dans le désert. Il va être arrosé de Dieu. David sait que l'omniprésence de Dieu est partout. Dieu est partout, hallelujah, que je sois en Europe, que je sois ici, Dieu est partout. Donc, David, il sait que Dieu est là. Le psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » David nous dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuis-je loin de ta face? » Dieu est tout-puissant. L'Esprit de Dieu peut nous rejoindre où il le veut. Dites avec moi, que je sois ici, que je sois dans mon auto, que peu importe, souvent j'ai pleuré dans mon auto, moi. Souvent dans mon bureau, je pleure souvent aussi. Dieu sait où nous rejoindre. Est-ce que c'est vrai? Dieu, il est nos limites. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. C'est lui le boss, c'est lui le king, c'est lui qui dirige. Alléluia! David devient, je dirais, dépendant de Dieu. Dépendant. Dis à ton frère, à ta soeur, est-ce que je suis dépendant de Dieu? Alléluia! David dit, « Oh, mon Dieu, je te cherche! » Écoutez bien, le mot « Dieu », c'est le mot « Elohim ». Le mot « Elohim » veut dire « le vrai Dieu d'Israël ». David s'adresse au vrai Dieu, celui qui fait la différence, car il est vivant, il recherche le cœur de Dieu, il devient un chasseur de Dieu. Allô? Est-ce que nous sommes des chasseurs de Dieu? Alors, soyez prêts avec vous. Est-ce que je chasse? Est-ce que je recherche Dieu? Est-ce que j'ai faim de Dieu? Est-ce que j'ai faim de la présence de Dieu? Est-ce que je me cherche le conseil de Dieu? Est-ce que je suis ce chercheur de Dieu? Je reste-tu? Est-ce que je recherche la présence? Est-ce que je recherche ses directions? Son âme a soif de Dieu. Le psaume 42, verset 2, « Au chef des centres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Tout comme l'eau qui est indispensable à notre vie, la présence de Dieu est indispensable dans notre vie. Je trouve ça malheureux parfois qu'on n'aime pas la présence de Dieu. Je trouve ça malheureux de voir des frères et des sœurs qui ne cherchent pas la présence de Dieu, qui ne cherchent pas le cœur de Dieu. On a besoin du conseil de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous parle. Alléluia! On s'éviterait bien des problèmes. Si tu deviens le chasseur de Dieu, si tu poursuis Dieu, tu vas l'attraper. Alléluia! C'est une poursuite. Ça doit être né. Ça doit être dans ta vie. Alléluia! Le désir de rencontrer le Seigneur, ton amour avec Dieu doit avoir une bonne odeur, une bonne senteur. Parce que chercher Dieu, c'est chercher sa présence, c'est signe de votre amour. Puis si on ne recherche pas le Seigneur, on vient mourir spirituellement. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Nous, les chrétiens, on est vite à critiquer, puis à chioler, puis à murmurer. Puis cherche la face de Dieu, les choses vont changer. Allô? Dans ton verre, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia! Si tu n'as pas soif de Dieu, les choses ne marchent pas bien. Mais David, le cœur de Dieu, son âme a soif du Dieu vivant. Nous devons veiller à rien, je le dis ce matin, à rien qui diminue notre intensité, notre désir de chercher les choses en haut. Nous devons prier avec un vrai désir. Pas se dire, « Oh Seigneur, merci, merci Seigneur. » Chercher le cœur de Dieu, c'est un cœur à cœur. C'est ton intimité. Alléluia! Je ne sais pas si vous saisissez que je m'en allais avec vous ce matin, mais une vraie soif de Dieu, c'est d'attraper la présence de Dieu. Ça démontre l'amour que tu as pour Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit qui vit en nous désire nous emmener plus loin avec Dieu. Son désir, c'est de connaître le cœur de ton Père. Vous savez, la vie chrétienne, on peut la faire très charnellement ou on peut la faire très spirituellement. Allô? Le nom de mot chrétien ne fait pas de vous des chrétiens. Qu'est-ce qui fait de nous un chrétien? C'est l'amour de Dieu qu'on a dans notre cœur. L'amour qui se démontre par nos actions, l'amour que vous portez les uns pour les autres, l'amour de se pardonner les uns les autres, c'est l'amour de Dieu qui est le reflet de sa gloire. C'est le changement dans notre cœur. Le Saint-Esprit, son rôle, lui, c'est qu'on ait soif de Dieu. Plus vous allez avoir soif de Dieu, plus vous allez voir les choses changer dans votre vie. Hallelujah! Comme une biche qui va au courant d'eau. Une eau qui est bonne à boire. D'aller à la rivière de Dieu. Sans la vie de Dieu, la rivière de votre vie, elle est sèche. Donc, on a besoin de la vie de l'Esprit qui va nous emmener dans la fraîcheur malgré nos combat. Jésus nous donne une invitation, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, Jean 7, 37. Jésus est la source de notre vie. Il est le seul qui peut nous rafraîchir. Sa invitation est vraie. J'aimerais lire avec vous un petit verset. Oh, mais qui est bon. Le psaume 65, 10. On va juste, psaume 65, 10. C'est ça. Le ruisseau de Dieu. Qu'est-ce qui est marqué ici? Est-ce qu'il est marqué qu'il est sec? Est-ce qu'il est marqué qu'il n'y a rien dedans? Qu'est-ce qui est marqué? Le ruisseau de Dieu est plein. Une invitation à aller au ruisseau de Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il est vie, il est rafraîchissement. L'eau coule en continuel devant le trône de la grâce de Dieu qui est là à tous les jours. C'est Jérémie qui disait, qu'est-ce que je veux repasser dans mon cœur? Que les compassions de Dieu se renouvellent à tous les matins. Si tu as soif de la présence de Dieu, tu vas aller te désaltérer à la présence de Dieu. Où est ta priorité? Allô? Où est ta priorité? L'Église qui avance, c'est une Église qui a soif de la présence de Dieu. Une Église qui avance, c'est une Église qui met sa priorité à travers la prière et les jeûnes. Une Église qui a soif de Dieu se consacre à Dieu. Une Église qui va avancer va gagner des victoires spirituelles. Alléluia! Parce que ton âme a soif du Dieu vivant. C'est un ruisseau de Dieu, c'est un ruisseau d'espoir, de rafraîchissement. David a besoin de la présence de Dieu. Sa foi repose sur sa fidélité de Dieu. David a la sagesse de s'arrêter. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse de comment agir dans cette situation. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin dans ce désert d'être rafraîchi de ta présence. Je veux que mon âme ne s'assèche point. Je veux que mon cœur reste droit et pur devant ma situation. Je te fais pleinement confiance. Seule la présence de Dieu peut me garder de son amour. Seule sa présence peut t'apporter la paix. J'aimerais dire, si on se remet au Seigneur, laissez-moi vous dire, moi j'en ai fait des erreurs. Puis souvent je me suis appelé Joe l'erreur. Joe, mettez les noms que vous voulez là. En tant que ministre, on apprend de nous. En tant que chrétien, on apprend. Qui n'a pas fait d'erreur ici? Soyons honnêtes, qui n'a pas fait d'erreur ici? Là? Oh, les erreurs, on en fait tous. Tout le monde est d'accord avec ça? Mais on a besoin de s'arrêter. On a besoin de dire, ça change le cœur aussi. David dit, mon âme a soif. Seigneur, je veux ta présence. Dans le livre de Job, je viens de finir le livre de Job parce qu'on a une lecture quotidienne. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, lire la Bible en un an. Là. Donc, je viens de finir Job. Et Job aussi souffre. Hein? Job, c'est pas facile. Oh my, je n'ai pas grand monde qui a passé comme Job a passé, mais il a dit une phrase qui est puissante, qui est forte. Job 19, 25, disons ensemble. Malgré toutes les déboires de Job, malgré toute sa souffrance, malgré toutes ses trois amis qui disent face à Job, mais je sais, qu'est-ce qui est marqué? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je veux m'arrêter sur cela. Au sein même de la grande souffrance, au grand désespoir de cet homme, Job est attaché à Dieu. Toi seul, tu es le vrai Dieu qui peut faire la différence. Écoutez bien, Job a une grande foi en Dieu qu'il est convaincu que l'Éternel va le justifier dans tous ses malheurs. Job considère Dieu comme son Rédempteur, comme celui qui vit, comme celui qui voit, comme celui qui entend, comme celui qui répond. c'est lui qui va faire la différence. Parce qu'il est le Rédempteur, qu'il est vivant. C'est lui qui entend le cri de nos cœurs. Son oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre et son bras n'est pas trop court pour nous sauver, n'est-ce pas? Et Job, il sait que son Rédempteur peut l'aider. Et dans l'époque de l'Ancien Testament, si vous faites l'étude, le mot Rédempteur était... C'était affilié aux parents. C'était une question de famille. C'était un parent qui avait affection vers la personne en souffrance, qui emportait sa protection et son aide. Et Job, en disant que Dieu était son Rédempteur, Job appartient, Dieu affirme qu'il appartient à Dieu, qu'il fait partie de sa famille. Il s'attend que son Père céleste va le protéger malgré la douleur. Il s'attend à l'aide de Dieu également, que Dieu va le relever de sa souffrance, parce qu'il est son protecteur, qu'il sera son protecteur. Sa foi lui dit que Dieu ne l'a pas abandonné. Comme David, qui place sa foi dans son Rédempteur. Une place de confiance, une place d'assurance. Qui sera? C'est lui qui va le protéger. Combien que croit que Dieu peut le faire dans ta vie ce matin? Mais il faut que tu t'approches du cœur de Dieu. On ne dira jamais assez ces choses-là. Seul Dieu va faire sa justice dans notre injustice. David, son cœur est déchiré face à la situation. Son âme est éprouvée. Ses émotions sont ébranlées. Mais il dit, « Oh Dieu, j'ai soif de toi. Tu es un Rédempteur. Tu es mon Rédempteur. » Donc, David, c'est un homme mature. Pour parler de cette façon-là, à Dieu, c'est un homme qui est mature avec le Seigneur. Il s'humilie devant Dieu. Il lui fait confiance en Dieu. Il remet ses problèmes à Dieu. David sait que la fidélité, elle est là pour sa vie, parce qu'il a compris la grâce de Dieu. Psaume 34, versets 19 et 20. L'Éternel, c'est encore David, l'Éternel est près de ceux, quoi, qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, c'est des promesses pour nous. Donc, David, l'homme selon le cœur de Dieu, alléluia, la bonne nouvelle pour David, dans sa mauvaise nouvelle, même je suis dans le malheur, même si je suis dans la détresse, notre Dieu est près de nous. Allô? Et c'est là que je comprends avec les années que j'aurais beau me fier à Pierre, Jean, Jacques, mais il y a des réponses que Dieu seul va me donner. Il y a des souffrances que, peu importe le meilleur psychologue que vous allez avoir, Dieu seul va t'emporter la réponse. Et c'est ça que David a fait. Était dans le cœur de... Je ne suis pas contre ceux qui font de la thérapie. Au contraire, on a besoin. Mais il y a des problèmes que seul Dieu va régler dans ta vie. Et David est dans cette situation. Alléluia! Il est prêt, Dieu est prêt à nous relever et nous faire justice et nous délivrer de notre malheur. Vous savez, dans le deuxième point, les tempêtes de la vie, c'est souvent temporaire. On va souffrir, ça fait mal, mais le temps arrange bien les choses, comme qu'on dit. Mais, dis avec moi, c'est transformateur.
C'est transformateur.
Dis-le, je n'ai rien entendu. C'est transformateur. C'est très transformateur, les épreuves de la vie. Vous savez, je dirais que c'est dans ces moments-là que Dieu travaille. Le cœur de David est brisé. Mais dans ces moments-là, c'est là que vous attirez le cœur de Dieu. Quand vous vivez des difficultés, quand vous recherchez la face de Dieu, faites-vous des autels. Adorez-le. Allez au-delà de vos obstacles. Faites comme un avion qui prend son envol. Quand tu prends l'avion, il faut qu'il prenne son envol. Il n'y a pas le choix si tu veux te rendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'altitude, puis il passe en haut des nuages. Est-ce que c'est vrai quand vous prenez l'avion? En tout cas, ceux qui l'ont pris, hein? Faites de même, prends de l'attitude dans les tempêtes. Monte au-dessus de tes nuages, le problème. Hallelujah, monte au-dessus de ces choses-là. Jésus désire une rencontre avec toi. J'apprends à dire comme David, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Je veux voir ta gloire. La leçon que j'apprends encore aujourd'hui, que ma foi doit grandir davantage. Plus que je grandis avec le Seigneur, plus que je m'aperçois que j'ai beaucoup de choses à apprendre. On dirait que je n'ai rien appris. Tu découvres, et tu découvres, et tu découvres. Tu arrives à un point, tu dis, oh, j'ai tout appris. Tu arrives à un autre, c'est non. Puis c'est un autre, c'est non. Tu découvres. Donc, ça finit pas. Tu sais, ceux qui me disent, moi, j'ai tout vu, j'ai tout appris, j'ai de misère avec ça, parce que moi, j'arrête pas d'apprendre. Alléluia! Soyons pas plus spirituels qu'on a l'air spirituel, là. Soyons, revenons un peu terre à terre avec ces choses-là, là. Ma foi doit grandir avec Dieu. Et ma façon de dire que vous l'aimez, c'est votre humilité, c'est votre louange, c'est votre adoration. Soit assoiffé, soit affamé. Psaume 119, 10, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Vous savez, un autre gros problème, troisième point, un des gros problèmes de la vie chrétienne, puis je vais me mettre avec vous, on voudrait tout ça s'arrête vite. On aimerait savoir une baguette magique. Pouf, c'est parti. Oh, qu'on aimerait ça, les chrétiens. Hein? On est rêveurs, hein? Ah, oh, Dieu est au contrôle de tout. Dieu, tout. Mais Dieu permet aussi que des fois, la baguette magique, elle ne sort pas. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme qu'on veut. J'aimerais regarder un récit avec vous. Qu'est-ce que ça fait de devancer le plan de Dieu pour ta vie? De ne pas s'arrêter de chercher la face de Dieu comme David et d'attendre ses réponses. Vous savez, dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 8, le 1 Samuel va donner une parole au roi Saül. Il dit, « Va-t'en, Gilgal, attends-moi là 7 jours, attends que je revienne pour faire les sacrifices. » Et entre-temps, le fils du roi Saül, Jonathan, va déclarer une guerre avec les Philistiens. Et dans 1 Samuel, chapitre 13, il y a cette guerre maintenant qui est en place. Et à partir de ce moment-là, les Philistins vont commencer à attaquer Israël. Saul est à Gilgal, et les Philistins approchent. Laissez-moi vous dire, pour le roi Saül, si vous faites l'histoire du roi Saül, c'est pas l'homme le plus patient sur la terre. Saul, c'est un homme qui désobéit toujours au plan de Dieu. Il est rebelle, il est malhabile, que je pourrais dire. Il n'est pas trop fort face à la patience. L'armée de Saül arrive, donc son armée commence à se désintégrer. Ils ont peur, ils se cachent, ils se sauvent. Et ceux qui sont à Gilgal, maintenant, ils ont peur. Ils commencent à trembler devant les Philistins. Personne n'est en sécurité dans la situation. Vers le 7e jour, Samuel, le prophète Samuel, n'est pas arrivé. Donc, Saul commence à se poser des questions. Saul n'est plus capable d'attendre. Est-ce que le prophète est mort? Est-ce que le prophète m'a oublié? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui arrive avec lui. Donc, il doit prendre une décision. L'ennemi va arriver. Saul est nerveux. Saul est stressé. Saul a peur. Pour lui, pas le temps de consulter l'Éternel. Il faut que je prenne une décision. Je vais agir, je vais me débrouiller toute seule, sans l'aide de personne. Il décide de prendre la place du prophète Samuel. Et donc, moi, je vais faire l'Holocauste à sa place. Pas de temps à perdre, j'agis. Dieu comprend ma situation. Est-ce que ça vous arrive des fois? Oh, Dieu comprend tout ça. Oh, Dieu comprend ma situation. Il y a des situations qu'il faut être délicat avec le Seigneur. Dieu comprend ma situation. Vous savez, le roi Saül, c'est un homme qui était rempli de désespoir, impatient, pulsif dans ses actions. Je dirais charnel, qui prend la place qu'il ne doit pas prendre. Il est au-dessus ici de la volonté de Dieu. Il va aller plus vite que Dieu, pourrait dire, il va aller plus vite que Dieu. Sa foi, son assurance n'est pas ferme dans l'obéissance du Seigneur. Ça démontre un chrétien immature. Allô? Ça vous parle-tu un petit peu? En tout cas, moi, ça me parlait quand je montais le message du Seigneur. Qu'on a beaucoup à apprendre avec la maturité avec le Seigneur. Écoutez bien, 1 Samuel, chapitre 13, verset 9, il dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, il offrit les Holocaustes. » Donc, Saul a perdu la patience, peur de perdre la guerre, il désobéit à l'ordre du prophète Samuel, il va faire lui-même les sacrifices qui ne lui est pas permis, premièrement. Et lisons verset 1 Samuel 13, verset 10 à 14, « Comme qu'il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva, et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » Saul répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas... » Regardez, « Et j'en ai... » Qu'est-ce qui est marqué ici? « Et je n'ai pas quoi? » Implorer l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence que j'ai offert les holocaustes. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en quoi ici? En insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne. » Verset 14. « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » C'est une parole très sévère ici. Une parole que Dieu tranche vraiment face au roi Saül. Saül veut se justifier pourquoi il agit, mais son explication ne passe pas devant Samuel. Et 1 Samuel, chapitre 13, verset 13, Samuel lui dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Et le mot ici, le mot « insensé », si tu vas dans le mot hébreu, c'est « sakal ».« Sakal » veut dire « agir follement, idiot ». Folie. C'est des gros mots qu'on dit là. Samuel, t'es en train de dire au roi Saül, t'as manqué de sagesse. Tu t'es pas rendu compte de ta folie. Tu as agi en idiot. Tu as désobéi à la volonté de Dieu. Proverbe 18:2. Regardez bien ce qui est écrit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Wow, c'est gros là. Saul n'a pas réfléchi à ce qu'il a fait. Il n'a pas pensé aux conséquences de ses actions. Il a agi sur un coup de tête. Il était pulsif dans ses actions. Et c'est une chose que j'ai voulu que j'apprenne, puis je travaille fort sur ça, de me contrôler. Allô? Oh, j'ai un gros silence de mort ici. Là. Est-ce que c'est juste pour moi ou c'est pour vous aussi, là? On doit, il y a des choses, on doit, c'est mieux se taire des fois, pas parler, puis trop parler, c'est pas mieux non plus. Donc, il faut réfléchir des fois. Ça m'arrive des fois, puis ça m'est arrivé, j'ai changé ma femme, ma femme était un bon professeur pour moi. Elle me disait, Serge, respire, Serge, respire, fais pas de gaffe, pense-y deux fois, tu sais qu'est-ce qui va t'arriver. J'avais toujours cette petite voix-là qui me suivait. Serge, Serge, j'entendais la petite voix de l'esprit de Manon. Serge, c'est pas ma chair qui prend le contrôle. Avez-vous de misère avec ça, vous? Proverbe 28, 26. Celui qui a confiance dans ses propres, dans son propre cœur, qu'est-ce qui est marqué? Est un insensé. Un insensé, on sait, c'est une personne qui est dépourvue de bon sens ou de raison. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Saul a mis ses capacités au point de ne pas chercher le conseil de Dieu. Cela a démontré devant le Seigneur que son geste était prémédité, son désobéissance va lui coûter le privilège de fonder une dynastie. Ça a démontré l'immaturité du roi Saül. Voyez-vous, la question qu'on peut se poser, il y a des fois que ça vaut la peine d'attendre qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Prends pas le devant sur le Seigneur. Laisse le Seigneur prendre le devant. La foi de Saül n'est pas dans l'assurance des paroles du prophète qu'il lui a données. Où est notre assurance? Allô? Où est notre assurance? Écoutez bien, j'ai une parole pour vous. Si le Seigneur vous a parlé, ne mettez pas en doute ce que Dieu vous a dit. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Et Dieu n'est jamais en retard, c'est la bonne nouvelle. Et dans notre contexte, la patience, c'est formateur. Regarde au cœur de David ce matin. Regarde à la façon qu'il va se comporter. Il ne va pas précipiter ses actions. David, il dit, « Mon cœur a besoin de toi, Seigneur, comment agir? » Je sais que, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Je sais que, Seigneur, tu vas me répondre. Et à partir de cela, sa foi grandit dans l'assurance que Dieu a le contrôle de la situation. Allô? David est sécure en Dieu. Et le chrétien qui marche avec Dieu doit trouver sa sécurité en son Dieu et pas dans l'homme. Allô? Je le répète, parce que trop souvent, on se confie dans l'homme, mais on perd souvent nos batailles parce qu'on n'a pas cherché la volonté de Dieu. Ne précipitez pas les actions. Vous savez, quand on n'est pas patient, on fait comme David, comme Saül, on fait des erreurs, on va trop vite, on ne consulte pas les autres. C'est toi qui diriges à ta façon, c'est toi qui as toujours raison, puis toujours l'autre qui a tort. Allô? Cela démontre de quelqu'un qui n'est pas mature avec le Seigneur. Ça démontre un caractère qui n'est pas brisé devant Dieu. C'est des grandes vérités qu'on parle ce matin. Et cela a été le problème du roi Saül toute sa vie. Saul a marché avec ses sentiments personnels. Il a tout perdu, son règne, son onction, toutes les situations. Donc, au lieu de rester calme, de rester avec le Seigneur, il a tout perdu. Écoutez, l'attente vaut la peine. Psaume 37, verset 5, nous dit, qu'est-ce qui est écrit? « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Le Proverbe 16, verset 2, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Peu importe le temps que ça prendra, l'attente forme le caractère. Dis à ton frère, « Ah, oh, ça forme, puis pas à peu près. » C'est pas pour vous, là. Des fois, j'aurais le goût de patiner, puis aller plus vite. Là, je reviens à Manon, la petite voix. « Manon, calme-toi, Serge. » Ne devance pas le plan de Dieu. Va pas plus vite que Dieu va. David a su s'arrêter face au cœur de Dieu. Il est un chasseur de Dieu. Il poursuit Dieu. Il cherche les réponses que Dieu va lui donner. Pendant toute cette période de temps, sois comme David. Prends le temps, alléluia, de déverser ton cœur face à tes peurs, face à tes craintes, face à tes appréhensions. Recherche-le. Place ton espoir dans l'Éternel. Alléluia. Fais comme David. Sois sécure dans ton Dieu. Quand la chair craque dans les épreuves, il y a un parfum de bonne odeur habituellement qui sort de là. T'as pas le choix. Maintenant, là, quand t'arrives au bout du rouleau, là, où les choses vont pas, là, en tout cas, on plie les genoux. Je ne sais pas si c'est pour vous, là. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qu'on fait. On plie les genoux. On cherche la volonté de Dieu. On cherche la face de Dieu. Votre brisement, vous savez, la plus belle chose dans le brisement, ça attire la présence de Dieu. Rien n'attire plus le cœur de Dieu quand tu viens dans sa présence. Luc 37, 7, verset 37 et 38, on lit juste à verset 38, cette femme pécheresse qui a rentré avec les pharisiens, puis Jésus était à table, puis elle est partie avec un vase d'alfâtre de grand parfum, puis elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Verset 38, Luc 7, 38, elle se tient derrière, aux pieds de Jésus, elle pleura, et bientôt elle mouilla ses pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignait de parfum. Faites comme cette femme. Alléluia! Parce que le brisement, je dirais, dans la vie de quelqu'un, c'est un parfum favori de Dieu. Les larmes, c'est son onction préférée. Ça démontre votre humilité, votre faiblesse avant le Seigneur. Et spirituellement, sans Dieu, on ne peut pas avancer. Sans Dieu, on ne peut pas avancer. Peu importe qu'est-ce que tu vis, sans Dieu, on ne peut pas avancer et gagner nos victoires. Cela démontre, quand vous commencez à aller dans la présence de Dieu, pleurer dans la présence de Dieu, ça démontre votre cœur, votre amour, votre sensibilité vers Dieu. Vous avez pleinement confiance en lui. Rassemblez toutes vos forces ce matin et faites comme cette femme. Allez au pied de la croix. Allez dans la présence de Dieu. Va dans l'intimité de ton sauveur. Ta souffrance dégage le meilleur des parfums. Les circonstances difficiles créent le brisement. Et nous avons besoin de chrétiens qui grandissent dans le brisement. On n'en parle pas assez. On veut du bénis-moi, puis du bénis-moi, puis bénis-moi, puis donne-moi ci, puis donne-moi ça. Puis quand les temps d'épreuve arrivent, on les voit, on voit les gens partir. Ça ne fait pas des chrétiens matures. Allô? Le vrai brisement, on a besoin de passer là. Dans les vrais brisements qu'on voit les hommes et les femmes de Dieu consacrés qui aiment le Seigneur, toutes les épreuves, dans toutes vos épreuves, j'ai appris ceci, de ne pas me révolter contre Dieu. J'ai toujours tenu ma langue en bride et Manon en est témoin. À tous les temps où c'était dur, j'ai dit, Manon, j'ai besoin de jeûner, de m'approcher de la face de Dieu. Je ne veux pas me rébeller contre Dieu. Ça a toujours été mon cœur de me protéger de ces choses-là. Toutes vos épreuves, gardez votre cœur pur. Alléluia. Cherchez la face de Dieu. Le brisement emporte la transformation dans votre vie. Ça emporte un parfum agréable devant Dieu. Pour sentir la bonne odeur de Jésus-Christ dans votre vie, ça dépend de vous, si tu le veux ou tu ne le veux pas. Puis là, ce n'est pas la faute de ton frère, ce n'est pas la faute de ta sœur, c'est ta faute à toi. Allô? Question de responsabilité. Ça dépend de votre soif et de votre faim avec le Seigneur. Alléluia! Oh, mes amis, j'aime ce verset, on va décortiquer rapidement, le temps avance. Isaïe 40, verset 21 au verset 31, 29 au verset 31, il donne la force à celui qui est fatigué. Il leur manque la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ne lassent point, ils marchent, se fatiguent point. Le but du Saint-Esprit pour chacune de nos vies, c'est de nous redonner des forces spirituelles, de nous fortifier, d'être plus fort dans la foi. Si vous ne confiez pas en l'Éternel, alléluia, on va avoir des problèmes. Mais si tu fais comme l'aigle, tu vas renouveler tes forces, tu vas développer. Si tu ne cherches pas le Seigneur également, tu vas te fatiguer, tu vas te désintéresser aux choses de Dieu, ça va t'emporter de la fragilité dans ta vie, tu vas être changelant, ça n'aura pas la même vigueur. Pourquoi? Tu ne cherches pas Dieu. C'est Dieu qui donne la force. C'est personne d'autre, ne cherchez pas ailleurs. C'est lui. Écoutez bien, je vais développer quelque chose d'intéressant. Vous savez, l'aigle, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou quelqu'un vous l'a déjà prêché ici, l'aigle peut vivre jusqu'à 50 ans. Cependant, quand il arrive à une trentaine d'années, l'aigle est confronté à une épreuve assez difficile, décisive pour sa vie. Et arrivé à ces années, il a... Comme tout aigle, il y a des griffes hein, qu'on appelle là, des cerfs. Puis, à rendu une certaine âge, ces cerfs sont moins agiles. Il n'est pas capable de saisir sa proie à coup sûr. Son bec est émoussé, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de trancher ses proies facilement, efficacement pour les déchiqueter. Les plumes de ses ailes sont lourdes, puis il a de misère à prendre son envol. Alors, l'oiseau, il va soit périr ou soit mourir. L'aigle a deux choix devant lui. Soit qu'il va prendre la position pour sa survie ou pour mourir. Si l'aigle choisit de survivre, donc il est engagé dans un long processus de 150 jours, environ 5 mois. Et là, il pourra avoir la chance d'avoir une nouvelle vie. Si l'aigle s'engage dans la voie de la transformation, il a une chance de vivre plus vieux. Écoutez bien. Pour cela, l'aigle doit rejoindre un lieu retiré, accessible à lui seul, au sommet des montagnes, loin de tout prédateur. Là, à l'abri de toute chose, l'aigle va commencer à frapper son bec du rocher jusqu'à briser son bec. Et ensuite, il faut qu'il attende de longues semaines pour que son bec puisse repousser. Et après ça, une fois que le bec est repoussé, donc il commence à arracher ses vieilles griffes pour que des nouvelles griffes vont repousser. Et après ça, quand ça c'est fait, après ça, l'aigle va commencer à arracher ses vieilles plumes pour que des nouvelles plumes puissent revenir, puisqu'il prend son envol de nouveau. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'il est régénéré, de cette longue épreuve, l'aigle peut reprendre son vol et aborder une nouvelle vie d'aigle, je pourrais dire. Nous voyons ici la seule façon que l'aigle a réussi à survivre était de monter en hauteur de loin de ses prédateurs. Pour se refaire, donc, il a fallu qu'il fasse ces choses-là. Je dirais, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Si tu veux vivre un renouveau dans ta vie, il va falloir que tu montes dans la hauteur et tu t'enfermes dans ta chambre de prière et tu commences à chercher le Seigneur. Change, qu'est-ce que tu veux changer et brise-moi. Je veux avoir la bonne odeur de toi. Amen. Seigneur, arrache les mauvaises plumes. Casse ce qu'il y a à casser. Restaure-moi. Alléluia. Reprends l'attitude spirituelle ce matin. Monte dans les hauteurs de ton Dieu. Ça prend de la motivation, mes amis. Ferme la porte de ta chambre. Éloigne-toi de tout ce qui peut te désestraire. Tout qui vient te dire non, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'ai dit ma chose. Prends le temps et rentre dans la chambre de prière. Prends ton envol, mon ami. Seul Dieu va faire la différence. Si tu veux un élan, un nouveau, un renouveau, de vivre, de revivre ta vie spirituelle, pas juste dans la routine, mais de vivre de quoi de frais. La fraîcheur. Combien ont besoin de cela? Soyons honnêtes, là. L'Église a besoin de la fraîcheur. Hallelujah! C'est pas la religion qu'on fait. On sert à un Dieu vivant. Hallelujah. Plus tu seras comme l'œil, plus tu vas prendre de la hauteur. Le psaume 63, verset 3 et 4. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie et mes lèvres s'élèvent tes louanges. David dit, m'approcher de toi, c'est sentir la présence de Dieu. Plus que tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas sentir sa puissance et sa présence agir dans ta vie. Et tu vas dire comme David, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres s'élèvent tes louanges. » Pour David, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, alléluia, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? David, pour Dieu, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Peu importe les problèmes. Il y avait une compréhension de la grâce de Dieu. David est un adorateur. Il a appris, à travers les souffrances, de ses souffrances en tant qu'homme, à donner toute la gloire au Seigneur. Le psaume 63, verset 4b, deuxième partie, verset 5. « Mes lèvres s'élèvent tes louanges, je bénirai donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. » Je vais terminer dans quelques minutes. Là. Le cœur de David, il louange Dieu dans ses épreuves. David bénit Dieu. Il ne se révolte pas. C'est tout le contraire. Il le loue, il le bénit, il le remercie. Il s'estime heureux d'avoir Dieu avec lui. Fais comme David ce matin. Transformez vos brisements en des chants de louange et d'adoration. La louange et l'adoration dépouillent nos vieilles âmes, puis c'est plein de poussière dessus, là. Ça enlève toute la poussière pour glorifier Dieu. La louange, c'est des remerciements, c'est de la reconnaissance envers Dieu. Vous allez au-delà de vos forces négatives, vous lui donnez des actions de grâce, de remerciement et de fidélité. Et pour moi, une des grandes façons de me préparer, je vous le dis souvent, je commence à parler en d'autres langues. Mais qu'est-ce que je suis plus capable? Oh, j'embarque dedans. Va te fortifier, mon frère. Alléluia. Malgré les tempêtes, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Votre louange démontre qui contrôle votre Dieu. Vous le bénissez, vous lui dites que vous êtes heureux de lui appartenir. Alléluia. Chantez la gloire de Dieu. Je vais vous dire, ça libère votre esprit pour entrer dans les hauts lieux célestes. Wow. Moi, chez nous, je le dis souvent, la première des choses que je fais quand j'ouvre mon autre ordi, c'est la musique. Automatique. Puis souvent, quand je travaille, souvent je m'arrête puis je vais louer Dieu, remercier Dieu pour tout ce qu'il me donne. L'adoration, c'est notre cœur vers Dieu. C'est rentrer dans la présence de Dieu, où les fleuves d'eau vive coulent. Ton âme, ton esprit, ton âme, dans ces moments-là de présence de Dieu, c'est le flot de la grâce, l'amour de Dieu qui vient nous rejoindre. Peu importe ce que tu vis, alléluia, quand nous exaltons notre Dieu, ça dégage le bon parfum devant le trône de la grâce de Dieu. Dites-moi un gros amen, ça dégage le bon parfum. Alléluia. Ça apporte des changements d'atmosphère. Nous entrons dans la dimension de porte ouverte, de l'ouverture céleste. Votre louange, votre adoration va vous apporter sa paix, sa joie, vous apporter l'assurance. L'atmosphère change et l'atmosphère de la foi rentre en ligne de compte. Tu franchis des montagnes qui te surprennent et tu dis « je ne serai jamais capable », mais la foi à travers la louange fait déplacer les montagnes. Alléluia! Donne-lui ce matin un culte d'adoration. Va, cherche, sois le chasseur de Dieu. Sois le chasseur de Dieu. Frères et sœurs, ayez le cœur de David ce matin. L'homme rempli de l'Esprit, je termine, doit avoir un cœur d'adorateur. Doit avoir un cœur d'adorateur. Si tu aimes Dieu, tu vas adorer ton Dieu. Tu vas te soumettre à Dieu. Tu vas respecter ton Dieu. Peu importe ce que tu vis, tu vas attendre que la réponse arrive. Amen. Je vais demander aux musiciens s'ils peuvent s'approcher ce matin. Alléluia. Je termine avec le verset 5, psaume 103, 5. Il dit, « J'élèverai mes mains en ton nom. » David, dans la louange, dans l'adoration, il sait que Dieu lui fera justice. Si tu regardes vers le haut, tout va changer. C'est avec moi, tout peut changer.